Madame, messieurs, nous reprenons nos délibérations. Nous nous étions arrêtés à l'article 15. Monsieur Stadelmann, d'entente avec différents juristes, y compris des juristes non détenteurs de patentes, vient de me fournir une proposition. En ce sens que l'article 15, tel qu'il vous est proposé, ne serait pas modifié. L'article 16 serait adopté avec une modification à la lettre B. Lorsque l'avocat général des mineurs prend personnellement part au débat, point. Et nous aurions ensuite un article 16 bis libellé de la façon suivante. Dans les cas où, la défense n'est pas obligatoire, le président peut, si la défense des intérêts de l'enfant ou de l'adolescent ne paraît pas suffisante, faire appel comme assistant judiciaire à une personne expérimentée. Deuxième alinéa, les dispositions relatives à l'assistance judiciaire sont applicables par analogie. Voilà la modification. Donc l'article 15 resterait tel qu'il est proposé par la Commission, le 16 avec une suppression à la lettre B, et nous aurions un nouvel article 16 bis tel que je viens de vous en donner lecture. Est-ce que le rapporteur de la Commission veut s'exprimer?
La Commission se rallie à cette proposition.
Discussion ouverte. Désirez-vous que je vous relise ces propositions? Article 15, non modifié. Article 16, modifié en ce qui concerne la lettre B. Lorsque l'avocat général des mineurs prend personnellement part au débat, le reste est biffé. Et ensuite, article... Oui, les autres lettres restent. Ensuite, article 16 bis, premier alinéa. Dans les cas où la défense n'est pas obligatoire, le président peut, si la défense des intérêts de l'enfant ou de l'adolescent ne paraît pas suffisante, faire appel comme assistant judiciaire à une personne expérimentée. Deuxième alinéa, les dispositions relatives à l'assistance judiciaire sont applicables par analogie. Voilà, je pense qu'il nous faut traiter de ces articles 15, 16 et 16 bis de façon globale. Discussion ouverte à leur sujet. Vous venez d'entendre le rapporteur de la Commission qui se rallie. Monsieur Moritz Paul.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs, nous nous rallions à la proposition en faite.
Monsieur Stadelmann.
Monsieur le Président, deux mots pour expliquer la portée de cet article 16 bis. C'est que l'article 16 fixe les catégories de cas où la défense est obligatoire. Et dans les cas où la défense est obligatoire, c'est l'article 15 qui s'applique, c'est-à-dire que l'on ne pourrait recourir comme défenseur qu'à des personnes choisies dans le cercle des avocats. Et il reste des cas où la défense n'est pas obligatoire, et c'est l'article 16 bis qui s'appliquerait, et dans ces cas-là, qui sont à déterminer par le président pourrait faire appel comme défenseur de l'enfant ou de l'adolescent à une personne expérimentée. C'est pour ça que nous avons biffé une partie de la lettre B de l'article 16, qui, si on laissait cette lettre B, ça élargissait tellement les cas de défense obligatoire que l'article 16 bis que je proposais n'aurait pratiquement plus été applicable. Et alors il fallait tout de même que cet article 16 bis ait une certaine portée, et c'est dans les cas, c'est précisément les cas qui sont décrits à cette partie de phrase que nous avons biffée à l'article 16, à l'alinéa B, où l'on parle des cas, dans les cas où une mesure devrait être appliquée et que, aux yeux du président, la défense du prévenu n'est pas suffisamment assurée par son représentant légal. Voilà, j'ai essayé d'expliquer cette portée d'article 16 bis.
Voilà, discussion toujours ouverte. Voulez-vous que je vous relise? Oui, vous n'êtes pas des sténographes. Article 16 bis, premier alinéa. Dans les cas où la défense n'est pas obligatoire, le président peut, si la défense des intérêts de l'enfant ou de l'adolescent ne paraît pas suffisante, faire appel comme assistant judiciaire à une personne expérimentée. Deuxième alinéa. Les dispositions relatives à l'assistance judiciaire sont applicables par analogie. Faut que je répète ? Ça va ? Bon, discussion toujours ouverte. La commission s'est ralliée. Y a-t-il des oppositions ? Accepté. Titre 3. Maître.
Titre 4.
Titre 3, elle est partie. Ah non, titre 4, dispositions diverses. Ah oui.
Rien à signaler, sinon à l'article 18, nous avons prévu un délai de 5 jours d'avance qui n'était pas jusqu'ici mentionné dans la loi.
Opposition ? Accepté. Titre 5.
Rien à signaler.
Accepté. Titre 6.
Rien à signaler.
Accepté. Titre 7.
Ici, on parle d'un adjoint du tribunal des mineurs. Ce sera très vraisemblablement le secrétaire du tribunal qui pourra exceptionnellement remplacer le président.
Accepté. Nous en arrivons à la partie spéciale. Première section, titre 1er.
Rien à signaler.
Accepté. Titre 2.
Simplement préciser que le président du tribunal est donc aussi le juge d'instruction. Il peut, dans certains cas, confier cette tâche à une autre personne, soit un autre juge du tribunal, soit à un spécialiste ou un fonctionnaire.
Accepté. Titre 3.
Rien à signaler.
Accepté. Deuxième section, titre 1er, lettre A.
Rien à signaler.
Accepté. Lettre B.
Rien à signaler.
Accepté. Titre 2.
Titre 2, article 49. Nous avons précisé que si le mineur fait défaut à l'audience de jugement, on ne peut être amené, le tribunal peut prononcer son jugement par défaut pour autant qu'il ait été entendu, ce qui n'était pas non plus, qui ne figurait pas dans la loi, et nous estimons qu'il convient tout de même d'avoir au moins entendu une fois la personne en question avant de prononcer un jugement par défaut.
Accepté. Troisième section, titre 1er.
Rien à signaler.
Accepté. Titre 2e.
Rien non plus.
Quatrième section.
Pas de modification. Sauf à l'article 75 peut-être, où nous avons introduit un peu de souplesse. En ce qui concerne la dispense de frais, nous avons mis en tout ou en partie. Et également peut-être au point 6 de l'article 75 toujours, le recours pour les frais était adressé actuellement au tribunal administratif et nous avons joint tout cela, et si bien que ça ira également devant la Cour pénale. Par simplification.
Accepté. Chapitre 3.
Rien à signaler, nous avons repris ici les dispositions du code du code civil, code de procédure civile.
La poule au pot. Chapitre 4.
Rien à signaler non plus, nous avons repris pour les dispositions finales et transitoires les mêmes principes que celui qui a été adopté pour le code de procédure pénale.
Voilà, nous en arrivons au vote final. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la loi sur le tribunal des mineurs sont priés de le manifester en levant la main. Avis contraire. Unanimité. Nous passons maintenant à la législation sur le traitement des membres du corps enseignant. Rapporteur de la commission, M. Gury.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à la suite des décisions que nous venons de prendre, la Commission législative 2 peut enfin aujourd'hui vous soumettre les textes légaux relatifs au salaire du corps enseignant. La base de toute cette législation est la loi numéro 430-251, la première qui est citée sur vos feuilles, sur les traitements des membres du corps enseignant du 1er juillet 1973. Combattue, on s'en souvient, par un référendum, elle avait finalement passé le cap de la votation populaire. Nous vous la proposons sans modifications matérielles importantes. Les voies de recours prévues aux articles 3 alinéa 2 et 22 alinéa 2 étant laissées en suspens. La notion d'école primaire supérieure, inutilisée chez nous, disparaît de cette loi et de tous les autres textes. Nous avons aussi laissé en suspens les termes caisse d'assurance du corps enseignant pour des raisons bien compréhensibles. L'article 19, qui parle de lycées communaux, inconnu chez nous, est supprimé. De même, dans tous les textes que je vous présente au nom de la Commission législative 2, disparaissent les termes d'allocation de résidence, supprimés par le plénum, et, naturellement, tous les articles relevant des dispositions finales et transitoires. Il y a lieu dans ces textes d'adapter les montants des allocations pour enfants, ceux des différentes échelles de traitement, selon ce qu'on vient de décider, et aussi le nombre des gratifications d'ancienneté, le tout en conformité avec nos décisions précédentes. Rien à signaler au sujet du décret 430-251-1 sur les traitements du corps enseignant. À relever quelques modifications dépendant des décisions du plénum aux articles 9, les gratifications d'ancienneté, et 12, allocations pour enfants, ainsi que la suppression de l'article 10 qui fait référence aux allocations de résidence. L'ordonnance 430-252-1 fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants n'appelle aucun commentaire. Il en va de même de la suivante sur la rétribution des leçons supplémentaires. Rien à redire non plus de l'ordonnance 430-252-24 sur l'indemnisation des directeurs d'école et de la suivante concernant la rétribution des maîtresses et des maîtres de l'école ménagère complémentaire obligatoire.
Discussion ouverte sur ces 6 actes législatifs. Opposition. Accepté. 430-252-32.
L'ordonnance 430-252-32 concernant les traitements des maîtres aux écoles moyennes de commerce n'appelle pas de commentaires particuliers. Les écoles de commerce ne dépendant plus dans le Jura que de l'instruction publique, contrairement à la pratique bernoise, l'alinéa 2 de l'article 1er est supprimé. L'article 14 est un peu modifié. Vous ne l'avez pas sur vos feuilles, nous avons pris ces décisions dernièrement. C'est désormais le gouvernement qui déterminera le salaire des directeurs des écoles de commerce. L'ordonnance 430-252-4 vous est proposée sans modification matérielle. Il en va de même pour l'ordonnance 430-252-5. Ne reste en suspens que la caisse de compensation du canton de Berne. Rien à signaler au sujet des deux ordonnances suivantes. Pour des raisons évidentes, le décret 430-261 concernant la caisse d'assurance du corps enseignant est laissé en suspens. L'ordonnance 430-263 concernant les traitements assurés des maîtresses ménagères et des maîtresses d'ouvrage est amputée de la moitié de son contenu. En effet, les nouvelles dispositions de 1973 sur les traitements du corps enseignant postulent la suppression de la fin de l'article 2 et de la totalité de l'article 3.
Discussion ouverte au sujet des sept actes législatifs que vient de vous présenter le député Gury. Opposition, Monsieur Bréchet.
J'aimerais simplement poser une question à la Commission. Nous prévoyons à l'ordonnance 430-252-32 concernant les traitements des maîtres aux écoles moyennes de commerce. Est-ce que l'école supérieure de commerce de Delémont et l'école supérieure de commerce de Porrentruy sont comprises dans ces ordonnances-là? Parce que dès le 1er janvier, ces écoles seront reprises par l'État entièrement et nous ne savons pas dans quelle catégorie ces écoles seront classées.
Monsieur Gury.
Les deux écoles citées par Monsieur Bréchet dépendent bien de la direction de l'instruction publique et sont comprises dans cette ordonnance.
Discussion toujours ouverte. Accepté. 238-1.
Oui. L'ordonnance 435-238-1 sur les conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles, artisanales, commerciales et aux écoles supérieures de commerce dans le titre. Les écoles de commerce ne sont plus mentionnées dans cette ordonnance puisqu'elles dépendent de l'instruction publique. Pour le reste, peu de choses à signaler. Article 4, alinéa 2 et 4, suppression de la référence aux communes. Articles 10 et 11, uniformisation pour l'ensemble du canton de la procédure de nomination aux écoles moyennes supérieures. Proposition de la commission d'école, préavis du département concerné et décision du gouvernement. Par analogie à la décision que nous venons de prendre au sujet du salaire des directeurs des écoles de commerce, je vous propose au nom de la commission de modifier l'article 39, là aussi vous ne l'avez pas sur vos feuilles, et de donner aussi au gouvernement la compétence de fixer le salaire des directeurs des écoles professionnelles, commerciales et professionnelles artisanales.
Discussion. Opposition. Accepté. Tu donnes ta proposition. Nous en avons ainsi terminé avec les propositions de la commission législative 2. Nous en arrivons à la commission législative 3. Tout d'abord, les questions du gouvernement, rapporteur de la commission, M. Jean-Pierre Beuret.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la commission législative 3 vous propose l'adaptation d'une nouvelle série de textes législatifs. Commençons par la loi 152-161, sur l'éligibilité des membres du Conseil exécutif aux chambres fédérales. La Commission propose d'abroger cette loi, vu l'article 8 des dispositions finales et transitoires de la Constitution jurassienne, qui stipule qu'aucun membre du gouvernement ne pourra siéger aux chambres fédérales durant les deux premières législatures. Une nouvelle loi propre au canton du Jura devra être élaborée par le futur Parlement. 152-312, loi concernant la simplification d'administration de district. La Commission vous propose également d'abroger cette loi devenue caduque vu la nouvelle organisation de l'administration jurassienne. 153-01, loi sur les rapports de service des membres des autorités et du personnel de l'administration de l'État. La Commission vous propose naturellement d'abroger cette loi bernoise qui est remplacée par la nouvelle loi sur le statut des fonctionnaires que nous avons acceptée sur proposition de la Commission Autorité et Administration 3.
Discussion. Opposition. Abrogé. 621-4.
Décret 621-4. À noter simplement le remplacement du préfet par le service de l'inspection. le procureur d'arrondissement étant lui remplacé par le procureur et non le procureur général comme indiqué par erreur sur vos feuilles.
Discussion ouverte. Accepté. 811-91.
Il s'agit ici du tarif des honoraires des membres du corps médical. La commission vous propose d'abroger ce texte législatif 811-91. Ce dernier est totalement dépassé et, selon le professeur Macheret, pourrait être qualifié d'anticonstitutionnel. Il est actuellement supplanté dans la pratique par les conventions tarifaires reconnues par l'État, conventions dont nous reparlerons tout à l'heure. À noter que ce tarif contient certaines dispositions ignorées de tout le monde concernant les honoraires des médecins dentistes. Il appartiendra à nos futures autorités d'éventuellement édicter un tarif de base pour ces derniers au même titre que pour les médecins et les vétérinaires. Concernant le tarif 811-923, il s'agit d'abroger au sein de ce texte législatif les articles 7, 8 et 9.
La discussion est ouverte au sujet de ces deux tarifs, dont le premier est proposé comme devant être abrogé. Accepté. La loi 842-01.
Il s'agit de la loi portant introduction de la loi fédérale des 13 juin 1911 et 13 mars 1964, modifiant le titre premier de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accident. La commission vous propose de reconduire cette loi en adaptant simplement les différents niveaux de compétences. Quant à l'arrêté du Conseil exécutif concernant la loi fédérale du 13 juin 1911 et du 13 mars 1964 sur l'assurance en cas de maladie et d'accident, la commission vous propose de reconduire cet arrêté. Cet arrêté a d'ailleurs déjà passé en plénum sous l'égide de la commission législative 2. Il a dû être légèrement modifié par notre commission après que nous ayons obtenu l'accord des médecins et des caisses maladies exerçant une activité sur le territoire du canton du Jura de reconduire à titre provisoire dès le 1er janvier prochain la convention tarifaire actuellement en vigueur. Cet arrêté est donc libellé de la manière suivante. La convention tarifaire avec avenant, entre parenthèses, convention des médecins, approuvée par le gouvernement et passée entre la Société des médecins de la République et canton du Jura et la Fédération cantonale des caisses maladies jurassiennes, constitue la base du tarif cadre selon l'article 22 bis alinéa 1er de la LAME.
Discussion ouverte. Accepté. Nous passons maintenant au problème de la commission législative 1 en ce qui concerne les problèmes d'incompatibilité. Nous avons eu tout à l'heure une conférence des présidents. L'entente entre les quatre groupes n'a pas été obtenue. Et je vous propose la méthode de travail suivante. Tout d'abord, nous allons traiter de la proposition de la commission législative 1, avec possibilité pour les groupes ou les députés de faire des propositions de suppression. Une fois ce premier travail fait, nous passerons dans un deuxième temps, avec possibilité pour les groupes ou les députés de faire des propositions d'adjonction dans la liste des incompatibilités. Monsieur Montavon, pour nous présenter la proposition de la Commission.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est donc en application de l'article 8 de notre nouvelle loi sur les droits politiques que la Commission législative 1 vous propose cette ordonnance réglant les incompatibilités touchant les fonctionnaires. Pour établir cette liste, la Commission a retenu principalement deux critères, le degré de responsabilité et le degré de dépendance par rapport au pouvoir exécutif. Je vous proposerai tout d'abord une modification formelle, c'est de supprimer tous les articles qui précèdent les fonctions énumérées, Ainsi, nous aurions A, département de la justice et de l'intérieur, tiret, secrétaire du chef du département, chef du service juridique, etc. Et deuxième proposition, un petit peu moins formelle, c'est l'article 2. La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur les droits politiques, et non plus ce que vous avez proposé. Le gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Et ensuite, il faut répéter, s'il te plaît.
Alors, nouvel article 2. La présente ordonnance entre en vigueur...
Lentement.
Entre en vigueur en même temps que la loi sur les droits politiques. Je propose qu'on pourrait régler ces deux problèmes formels d'abord et ensuite passer département par département, si je vous ai bien compris.
Exact. Voilà, en ce qui concerne la toute première... Modification, la suppression des articles, y a-t-il des oppositions ? Accepté. En ce qui concerne la modification de l'article 2, à savoir le remplacement de ce que vous avez sous les yeux par la présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur les droits politiques, discussion ouverte. Opposition, accepté. Monsieur Montavon pour le détail.
Article 1er, les titulaires des fonctions énumérées ci-après ne peuvent siéger au Parlement. Je ne sais si je dois me livrer à l'énumération de ces fonctionnaires. Je vous propose de faire voter ainsi que vous en avez décidé avec les présidents de groupe.
Comme je vous l'ai dit, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Nous en avons discuté avec les présidents de groupe. Il faut voter, on ne va pas passer à l'énumération. Je prends comme acquis le fait que les députés ont lu cette ordonnance, en ont pris connaissance. Dès lors, il n'y a dans un premier temps que des possibilités de suppression par rapport à la liste présentée par la commission législative. Une discussion ouverte en ce qui concerne des propositions de suppression. Ça n'est pas le cas. Accepté. Nous passons maintenant à des propositions d'adjonction. Et vous savez très bien que des groupes ou des députés ont un certain nombre d'adjonctions à faire. Discussion ouverte. Monsieur Pope. On va faire département par département.
Non, toi tu restes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le groupe démocrate chrétien entend ici limiter ou éviter que la fonction publique soit par trop politisée. Et nous aimerions éviter que certains fonctionnaires se sentent dans le fond bridés s'ils assument un mandat politique ou qu'ils perdent une partie de leur indépendance de jugement ou de décision. Nous aimerions aussi éviter que, cela pourrait éventuellement arriver, que certains confondent leurs activités professionnelles avec une campagne électorale permanente. C'est pourquoi nous proposons, en ce qui concerne le département de justice et de l'intérieur, d'ajouter les deux fonctionnaires du service du personnel, le chef de service figurant déjà dans la proposition de la commission, ainsi que les fonctionnaires 1 et 2 du service des communes. Voilà pour le département justice et intérieur.
Discussion toujours ouverte au sujet de ce département. Commission. Est-ce que la commission désire s'exprimer sur cette proposition ? Non. Alors nous allons tout simplement passer au vote. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition que vient de faire le député Pope sont priés de le manifester en levant la main. Avis contraire. Par 19 voix contre 16, vous avez accepté la proposition du Parti démocrate chrétien. Nous passons maintenant au département. Économie publique. Discussion ouverte. Monsieur Pope.
Au département de l'économie publique, il nous semble que au service de l'économie rurale, il aurait lieu d'ajouter les fonctionnaires 1 et 2 de ce service, avec donc le chef de service qui figure déjà dans l'ordonnance de la commission.
Discussion toujours ouverte. Commission. Passons au vote. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition du PDC le manifestent en levant la main. Avis contraire. Par 20 voix contre 15, vous avez accepté cette modification. Nous passons maintenant au département de l'environnement et de l'équipement. Discussion. Discussion ouverte. Monsieur Pope.
Au département de l'environnement et de l'équipement, nous proposons d'ajouter au chef du service des forêts son adjoint et ensuite au chef du service des constructions également son adjoint, au service des forêts également les chefs d'arrondissement, ainsi qu'au service des constructions, l'inspecteur des chantiers et l'inspecteur des routes, étant donné les imbrications qu'il y a au plan de la hiérarchie en particulier entre ses membres et différentes autorités communales ou des particuliers.
Je prierai Monsieur Pope de répéter ces modifications, s'il vous plaît. Oui, mais
on vous les avait remis par écrit, mais enfin, on va bien qu'on les répète une fois. Alors, service des forêts d'adjoint, plus les chefs d'arrondissement, service des constructions, l'adjoint, l'inspecteur des chantiers et l'inspecteur des routes.
Discussion ouverte. Nous passons tout d'abord au problème de l'adjoint du chef du service des forêts. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de cette proposition le manifestent en levant la main. Avis contraire. Par 19 voix, vous avez accepté cette proposition. Inspecteur des chantiers, les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition présentée par M. Pope le manifestent en levant la main. Avis contraire. Par 18 voix contre 16, vous avez accepté cette proposition. Inspecteur des routes, les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition du Major Pope le manifestent en levant la main. Avis contraire. Voix contre 16, la proposition a été acceptée. Dernière proposition,
adjoint au chef du service des constructions. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de cette proposition le manifestent en levant la main. Avis contraire. Par 18 voix contre 17, cette proposition a été acceptée.
Où ils sont ?
On me parle d'une proposition supplémentaire que je n'ai pas sur votre papier, les chefs d'arrondissement forestier. Au sujet de ces inspecteurs des arrondissements forestiers, les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition présentée par le député Pope le manifestent en levant la main. Avis contraire. Par 18 voix contre 17, vous avez accepté la proposition. Nous passons maintenant au département de l'éducation et des affaires sociales. Discussion ouverte. Monsieur Pope.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour ce département, nous proposons d'ajouter l'inspecteur des écoles secondaires. Dans l'ordonnance, nous avons l'inspecteur des écoles primaires. Il nous apparaît normal que les deux inspecteurs primaires et secondaires figurent dans cette liste des incompatibilités. Nous proposons également l'adjoint au chef du bureau de l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que le fonctionnaire du service financier de l'instruction publique.
Discussion toujours ouverte. Monsieur Beuret Jean-Pierre.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le groupe Chrétien Social Indépendant vous propose d'ajouter encore à cette liste le chimiste cantonal et les assistants sociaux.
Voilà. Nous passons aux voix, si plus personne ne demande la parole. En ce qui concerne l'inspecteur des écoles secondaires, les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition le manifestent en levant la main. Avis contraire. Par 23 voix contre 10, vous avez accepté cette proposition. Chimiste cantonal, les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition d'adjonction le manifestent en levant la main. Avis contraire. Chimiste cantonal ajouté à la liste. Nous passons maintenant aux assistants sociaux. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la proposition. Bien sûr. Monsieur Stucki, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je m'étonne tout de même qu'on veut mettre les assistants sociaux dans cette aventure. C'est quand même une aventure. Nous sommes en train de faire quelque chose d'absolument extraordinaire maintenant, qui m'étonne. Et nous tranchons dans le vif comme ça, sans, sans explication, sans rien du tout. Je demanderai à M. Beuret de venir me le dire pourquoi il ne veut pas les assistants sociaux. Je serais bien content d'avoir son opinion dans ce domaine. Je m'étonne de ça.
Non, pas en ce qui concerne, M. Schafter, je dois vous rappeler qu'en ce qui concerne les assistants sociaux, le mot n'est pas fait. M. Beuret, Jean-Pierre, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si on admet que le chef du service de l'aide sociale ne doit pas être éligible au Parlement, raison de plus les gens de son service qui ont des responsabilités et qui, eux, sont dans le terrain et deviennent, par la force des choses, des agents électoraux en puissance. Dès lors, dans la mesure où on interdit à un adjoint d'un service quelconque, par exemple des forêts, de siéger au Parlement, ce qui est logique, si on admet qu'un inspecteur du service des routes ou des chantiers ne puisse pas siéger au Parlement, ce qui est encore une fois logique, eh bien, il n'est pas normal que des assistants sociaux qui sont dans le terrain toute l'année, qui ont des contacts permanents avec le public, soient en même temps des agents électoraux. Il n'est pas possible de céder à cette pression-là, donc nous maintenons notre proposition.
Discussion toujours ouverte. Monsieur Vifian.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs, mon intention n'était pas de venir à la tribune, initialement n'était pas de venir à la tribune pour traiter de cette question, mais devant la tournure des événements qui, à mon avis, dégénère, j'aimerais quand même faire remarquer à l'attention de la presse, que c'est la quatrième fois que nous revenons sur cette question et je trouve, quant à moi, choquant qu'on revienne pour une quatrième fois sur des problèmes qui finalement devraient avoir été traités lors des trois premières. En ce qui concerne la question des assistants sociaux, les arguments de M. Beuret ne m'ont pas convaincu.
Discussion toujours ouverte. M. Braillet.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce petit jeu de massacre ne doit pas continuer. Je crois qu'il faut nous référer à des principes beaucoup plus sérieux que de faire des triages ou des tris tels que ceux auxquels nous procédons. Je pense que seule la loi d'organisation peut nous permettre d'avoir des critères valables. Ces critères, en ce qui me concerne, et je vous les propose, c'est la délégation du pouvoir administratif. Nous avons dans notre loi un article précisément qui délègue ce pouvoir administratif, le pouvoir de prendre une décision. Et il m'apparaît équitable de trancher selon cette définition, car maintenant c'est l'arbitraire. Nous en raterons, nous en aurons mis dedans, qui indiscutablement seront écartés du Parlement alors que finalement ils ne joueront pas un rôle prépondérant. Dès lors, si nous nous référons, je ne veux pas dire prépondérant au Parlement, M. Boyat, non, mais prépondérant peut-être dans l'influence qu'ils pourraient avoir sur le plan administratif et dans l'influence qu'on leur accorderait auprès de certains électeurs ou auprès desquels il pourrait se faire une certaine popularité. Non, je crois que là, Madame, Messieurs, il s'agit d'être objectif. Nous sommes très subjectifs pour l'instant. Et je crois qu'un esprit rationnel et cartésien se doit de vous proposer, j'espère l'être, n'est-ce pas, se doit de vous proposer un critère. M. Schafter n'est pas d'accord avec moi. Et pourtant, M. Schafter, la loi nous le réclame, nous se doit de vous proposer un critère objectif. Ce critère, c'est l'article de la loi, précisément, qui se réfère à la délégation de compétences administratives. Et je voudrais vous demander, M. le Président, par une motion d'ordre, qu'on s'exprime sur ce principe.
Bon, nous sommes en présence d'une motion d'ordre. M. Jean-Pierre Beuret demande la parole.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il fallait être rationnel et cartésien, Monsieur Braillet, dès le départ de nos délibérations à ce sujet. Pour sa part, le groupe Crétin Social Indépendant l'a toujours été.
Il s'est déterminé en fonction de la non-éligibilité au Parlement de tous les fonctionnaires de l'ordre exécutif. Sa proposition n'a pas passé, mais le plénum a fait grâce à la proposition PLR socialiste qui voulait que certains fonctionnaires seulement puissent siéger au Parlement. Dès lors, ne criez pas à l'arbitraire aujourd'hui, vous l'avez appelé vous-même. On a parlé à certains moments d'un trait qu'on tirerait dans l'échelle des traitements. Ensuite, on a parlé du niveau de responsabilité, du degré de contact avec le public. Ça, c'est de l'arbitraire. Mais vous l'avez appelé, ne venez pas nous accuser à présent de le pratiquer. Vous avez admis une disposition dans la loi, nous ne faisons que de mettre en pratique cette disposition. J'estime que votre intervention actuellement est totalement déplacée.
Discussion toujours ouverte. Monsieur Braillet.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je comprends Monsieur Beuret. Je ne partage pas ses conclusions, parce que je veux toujours, en esprit cartésien, essayer tout de même de tenir compte de tous les éléments du problème. Oh. Si vous voulez que je vous prenne Pascal, Monsieur Schafter, ça ne me gêne pas du tout, même sa brouette. Quoi qu'il en soit, je vous dirai, Madame et Messieurs, que le groupe libéral radical, effectivement, était pour une liberté totale au départ des fonctionnaires pour le Parlement. Mais c'est les discussions du Parlement qui ont voulu qu'il y ait barrage. Ce n'est pas le groupe libéral radical. Puisque vous avez mis un barrage, démocrates que nous sommes, nous l'avons accepté. Mais nous ne l'acceptons que sur des principes qui sont rationnels. Et non pas subjectifs, mais des principes objectifs. Or, la loi d'organisation du gouvernement et de l'administration cantonale, qui tout de même est un document essentiel de notre État, doit être la base de nos discussions et de nos décisions. Et ce que je vous propose n'est pas quelque chose qui est fait dans le vague. Puisque je m'appuie sur l'article 11, qui dit, et vous l'avez tous dans vos documents, puisque nous en avons parlé ce matin, sous réserve de l'article 10 de la présente loi, le gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer au département, à la chancellerie, à des services ou offices subordonnés, et nous avons ajouté, et à certains fonctionnaires, la compétence de prendre des décisions et autres mesures administratives est celle de conclure des contrats. Or, nous nous appuyons sur cet article pour décider de l'incompatibilité des fonctionnaires quant à participer aux délibérations du Parlement. Je crois que nous sommes rationnels, je crois que nous sommes objectifs, et que là, nous ne voyons pas à travers notre choix les noms possibles. Nous n'avons pas deux visages devant nous. Nous avons des principes. Et seule l'objectivité nous guide. Voilà, Monsieur Beuret, ce que je peux vous répondre.
Bon, nous sommes toujours en présence de cette motion d'ordre déposée par Monsieur le député Braillet. La discussion est ouverte exclusivement sur la motion d'ordre déposée par Monsieur le député Braillet. C'est assis ou...
C'est assis parce que je n'ai rien compris à cette motion d'ordre. Si quelqu'un veut m'expliquer ce qu'il a demandé, je veux bien parler. Mais je voulais parler d'autre chose, je ne comprends pas.
Bon, je pense que, écoutez, Monsieur Braillet a été clair, je vous répète l'article 11, je vous relis l'article 11 de la loi que nous avons adoptée ce matin. Sous réserve de l'article 10 de la présente loi, le gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer au département, à la chancellerie, à des services ou offices subordonnés et à certains fonctionnaires, la compétence de prendre des décisions et autres mesures administratives et celle de conclure des contrats. La discussion est ouverte là-dessus. Ensuite de cela, nous allons procéder au vote. Si il me semble qu'il y a actuellement deux langages qui sont utilisés et que ces deux langages ne permettent pas aux députés de s'entendre, je me vois dans l'obligation de suspendre la séance. À moins que M. Schafter et Jean-Pierre Beuret veuillent s'exprimer avant cette suspension. Alors, suspendons. Vive les pincettes. Un quart d'heure de suspension de séance. Madame, messieurs, nous reprenons nos délibérations sur la motion d'ordre déposée par le député Braillet. D'entente avec les présidents de groupe, nous allons continuer la discussion sur cette motion d'ordre. Si la motion d'ordre devait l'emporter, le tout serait renvoyé à deux commissions, à savoir la législative 1 et la commission autorité administration 1. Je crois que je me fais l'interprète de la volonté de M. Braillet. Est-ce que c'est juste? Bon, discussion toujours ouverte. La discussion n'est plus demandée. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la motion du député Braillet. Hein? Mais il y a des suppléants aussi. Les membres de notre assemblée qui sont en faveur de la motion d'ordre du député Braillet le manifestent en levant la main. Les membres de notre assemblée qui sont opposés à la motion du député Braillet le manifestent en levant la main. Par 20 voix contre 19, la motion du député Braillet a été adoptée. Il s'agit maintenant pour nous de prendre, et j'informe les présidents des deux commissions concernées, de faire diligence. Il s'agira pour nous de convoquer une conférence des présidents dans les plus brefs délais, parce qu'il ne s'agit pas d'oublier que les listes pour les candidats au Parlement et au gouvernement doivent être entre les mains du secrétariat de l'Assemblée constituante lundi prochain. Dès lors, je prie tout à l'heure, après la fin du plénum, les commissions autorité et administration 1 et législative 1 de siéger ensemble. Je participerai moi-même aussi à cette séance. Ce point de l'ordre du jour est terminé. Nous passons maintenant au point 5 de l'ordre du jour, étant donné que le point 4 n'est pas de la compétence du plénum, mais est de la compétence de la conférence des présidents. Il s'agit tout simplement des effectifs du personnel judiciaire. En ce qui concerne le point 5 de l'ordre du jour, vous avez reçu la liste des actes législatifs que nous avons déjà discutés et adoptés alors que l'Assemblée constituante n'était qu'un Parlement préparatoire. Depuis hier, l'Assemblée constituante est devenue un Parlement provisoire, donc avec pouvoir décisionnel. Je ne vais pas vous demander de voter point par point sur ces lois. Je vous demande simplement si vous avez et si vous demandez la discussion sur cette liste. Il s'agit, selon le recueil systématique, des points 5, Défense nationale, police, 6, finances et régales, 7, construction, travaux publics, énergie, transport et communication, 8, santé, travail, sécurité sociale, 9, économie. Discussion ouverte. Les membres de notre assemblée qui sont d'accord avec l'adoption définitive de ces actes législatifs le manifestent en levant la main. Avis contraire. Unanimité. Nous avons ainsi terminé notre ordre du jour. Je demande aux deux commissions que j'ai appelées tout à l'heure de rester ici dans cette salle. Il serait peut-être judicieux que les présidents de groupe restent aussi.